Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G, 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, quelle chance, Philippe et Sophie, vous êtes là. Bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver. Bonne année.
Bonsoir et bonne année à vous.
Et merci à Pierre pour la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous allons recevoir Simon et Aimé de l'association Solidarité Femmes 49. Puis nous passerons en revue l'actualité et nous terminerons bien sûr par l'agenda culturel et militant. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu vas nous démonter le mythe de l'appel d'air.
Commençons par du concret. À Calac, gros bourg rural de 2200 habitants dans les Côtes d'Armor, le maire voulait revitaliser sa commune qui ne cesse de voir sa population diminuer et compte nombre de retraités et d'inactifs. Alors, quand le fonds de dotation Merci lui présente au début de 2022 le projet Horizon, il voit une opportunité à saisir. Le principe est simple, il s'agit d'accueillir progressivement sur 10 ans des familles réfugiées et 78 emplois vacants sont à pourvoir selon le maire. Mais le projet a divisé ses administrés, aujourd'hui à couteau tiré, si bien que l'élu, sous le coup de menace de mort, a dû renoncer à son projet. Voici la parfaite illustration de cette obsession dévastatrice qui accompagne depuis 20 ans toutes les controverses sur les mouvements migratoires. Surtout ne pas créer d'appel d'air.
Mais comment expliquer la persistance de ce mythe dans la société française ?
Il repose sur l'idée que les personnes migrantes se comportent comme des sujets rationnels et éclairés. Informés par la presse, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, ils pèseraient avec soin avant de quitter leur pays les avantages et les inconvénients de chaque destination afin de repérer les contrées les plus hospitalières.
Donc cette crainte ne correspond nullement à la complexité du parcours.
Les études internationales consacrées aux déterminants de la migration montrent en effet qu'il n'existe aucune corrélation entre la qualité des politiques d'accueil et l'orientation des déplacements migratoires. Les facteurs dits « push », les troubles politiques ou religieux, le chômage massif, la guerre, l'insécurité qui incitent les migrants à partir, sont en effet nettement plus puissants que les facteurs dits « pull », l'attractivité réelle ou fantasmée des pays de destination.
Mais la qualité de l'accueil doit quand même peser dans le choix des personnes qui migrent.
Très peu en fait. Dans un travail publié en 2014, un économiste de l'université de Southampton montre ainsi que la générosité de l'État-providence n'est pas un facteur clé de départ, une conclusion confirmée en 2017 par une chercheuse américaine. Les principaux déterminants de la migration, estime-t-elle, ne sont pas les politiques sociales du pays d'arrivée, mais son attractivité économique et la présence sur son territoire d'une diaspora. Ces deux critères sont absolument décisifs et indissociables. L'activation de ces réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux, villageois ou nationaux, permet de faire baisser les risques et le coût de la migration, mais aussi de faciliter l'intégration.
Alors certains prédisent une forte augmentation des entrants avec la proposition du gouvernement de délivrer des titres de séjour dans les métiers en tension.
Les travaux de recherche montrent pourtant que depuis le début des années 80, aucune vague de régularisation, même massive, n'a eu d'effet incitatif sur les départs. Inversement, la fermeté des politiques migratoires engendre même un effet paradoxal. Les pays d'accueil qui multiplient les obstacles à l'immigration incitent les exilés déjà présents sur le territoire à s'installer durablement, car ceux-ci risquent, s'ils retournent au pays, de ne plus pouvoir revenir.
Alors, en ce début d'année 2023, en France, un énième projet de loi Asile et Immigration va être proposé par le gouvernement.
Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France stigmatisent toujours davantage les personnes exilées en les présentant comme un problème à régler. Les discours dominants parlent de flux, de flots, de vagues migratoires, autant de mots qui déshumanisent et font percevoir ces personnes comme une menace. C'est faux, c'est injuste, c'est insultant.
Et quelle est la situation de l'accueil alors aujourd'hui en France ?
Jamais ne sont déconstruits les discours alarmistes, alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le solde migratoire est constant d'une année sur l'autre d'environ 150 000 personnes, 0,22% de la population. À Calais et à Grande-Synthe, les forces de l'ordre détruisent les campements dans les dunes toutes les 48 heures. Souvent, les affaires des personnes sont confisquées, les tentes lacérées. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisent aux citoyens de leur apporter de la nourriture ou des boissons. Raison invoquée, zéro point de fixation, zéro appel d'air. Quand retrouverons-nous le chemin de la raison et de l'humanité ?
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le moment, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Simon et Aimé de l'association Solidarité Femmes 49. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Bonne année.
Oui, merci.
Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Alors l'association, elle existe depuis 1985 sur le département du Maine-et-Loire. L'association a été rebaptisée en janvier 2022, anciennement SOS Femmes, maintenant Solidarité Femmes 49, parce qu'on appartient à la Fédération Nationale Solidarité Femmes qui porte le 39-19. Voilà. Solidarité Femmes 49, le siège social est à Angers, à vocation à intervenir sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire. Solidarité Femmes 49, c'est 18 salariés, 18 professionnels du secteur social qui œuvrent au quotidien dans l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, donc de victimes de violences au sein du couple. Voilà.
D'accord.
Et quelles sont les actions marquantes que vous développez localement ?
En termes d'action marquante, on peut parler du 8 mars, qui est un événement incontournable qui a lieu chaque année, donc la journée internationale pour les droits des femmes. Et il y a également le 25 novembre, qui est un autre événement incontournable. Et en ce moment, on peut parler d'un élément qui va être absolument important pour 2023. Pour nous, ça va être la recherche des locaux. On espère pouvoir trouver de nouveaux locaux.
Actuellement, vous êtes rue du Grand Pigeon, c'est pas comme ça, non ?
Non, on est deux allées Georges Pompidou.
Ah, je me trompe. Ok, et vous allez changer bientôt ?
Oui, on est à la recherche de locaux, donc entre 400 mètres carrés et 600 mètres carrés.
Et la municipalité ne peut pas intervenir, c'est ça ?
Alors, on a besoin de pousser les murs, on a besoin de pousser les murs pour continuer à travailler, on a besoin de pousser les murs pour continuer à accueillir convenablement le public en toute confidentialité. Mmh. Voilà, Solidarité Femmes 49, c'est à peu près entre 400 et 600 victimes accueillies chaque année. Mmh. Effectivement, Aimé a pu décrire les journées, en tout cas, de fortes mobilisations avec l'ensemble des partenaires sur le territoire. Je pense au CIDFF, je pense au planning familial. Mais avant tout, Solidarité Femmes 49, c'est plusieurs, c'est une écoute. Et c'est une écoute des victimes. Et ça peut être un accompagnement sur plusieurs modalités. On a un centre d'hébergement, on a 17 appartements sur le territoire qui permettent de pouvoir accueillir des femmes et des enfants. On a un dispositif qui permet de mettre à l'abri les femmes et les enfants qui ont besoin à un instant T de pouvoir quitter leur domicile parce qu'elles se trouvent dans une situation complexe, souvent liée à un danger, souvent liée au danger de l'agresseur. Mmh. On a un point d'écoute, c'est-à-dire qu'on a des permanences téléphoniques chaque après-midi où les victimes peuvent nous contacter sur notre standard téléphonique. Mmh. Pour répondre à une demande, pour une première écoute, pour réfléchir sur leur situation qu'elles vivent à leur domicile. Et on rencontre bien évidemment les victimes, les femmes victimes qui le souhaitent. Donc à Angers, pourquoi ? Parce que c'est une grande ville, donc les choses, voilà. Mais on pense beaucoup à la ruralité, à toutes les zones oubliées du département, sur lesquelles on pense vraiment aller vers. Voilà, on a vraiment, en tout cas, Solidarité Femmes 49, la dynamique d'aller vers les victimes. Et on sait à quel point beaucoup de zones du département sont un peu oubliées.
Mmh, oui, est-ce qu'il y a une augmentation un petit peu du phénomène d'une part et des sollicitations auprès de votre association ? Ça stagne ou bien ça diminue ?
Les violences conjugales sont importantes dans la région ?
Oui, il y a une augmentation des sollicitations. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre centre d'hébergement s'est développé l'année dernière et on est passé à 62 places. Donc c'est 62 places fléchées femmes victimes de violences conjugales sur 130 sur le département en tout. Et de façon générale, effectivement, on a augmenté le nombre de prises en charge par notre association.
Donc dans votre association, excusez-moi, il y a des médecins, psychologues, des assistantes sociales, assistants sociaux, etc. Enfin, je veux dire, il doit y avoir quand même pas mal de métiers différents pour accompagner, pas uniquement au niveau psychologique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de plus global.
À l'association, il y a des travailleurs sociaux, mais l'association a vocation à coordonner tout l'accompagnement. Et il y a aussi des juristes du CIDFF.
Juristes, bien sûr.
Tout à fait, une fois par semaine au siège de l'association. Et des psychologues qui viennent également une fois par semaine, à raison de 3 heures par semaine.
On est vraiment sur un accompagnement pluridisciplinaire, hein. C'est-à-dire que nous, on a vocation à dire qu'on est tous et toutes concernés, hein. 1 femme sur 10 est victime de violences au sein du couple. Les dernières statistiques sont encore un peu plus alarmistes, hein. On est à 2 femmes sur 10, donc voilà, c'est beaucoup de choses qui nous bouleversent et qui bouleversent notre quotidien, et on est sur un accompagnement pluridisciplinaire. On n'a pas vocation à accompagner toutes les femmes victimes, on accompagne beaucoup de proches aidants, hein. Les proches aidants ont une place privilégiant le parcours de reconstruction. Je pense à la famille, je pense aux mamans, je pense aux frères et sœurs, je pense aux voisins ou aux voisines qui ont vraiment un rôle primordial à avoir dans le fait de détecter. Donc c'est pour ça aussi que Solidarité Femmes 49 mène des actions de prévention et de sensibilisation auprès du public, au même titre que nos partenaires que j'ai pu citer précédemment. On doit en tout cas, même si la puissance publique s'est vraiment emparée de la problématique depuis de nombreuses années, effectivement les fonds sont un peu plus conséquents, mais encore trop justes. Et il s'avère que voilà, la réponse, je me répète, mais la réponse est vraiment pluridisciplinaire, parce qu'on ne peut pas, nous, être seuls en tout cas à accompagner les victimes.
Alors on cite souvent effectivement l'Espagne comme une sorte de modèle, parce que suite à une interview d'une dame qui en 97 en Espagne à la télévision a été ensuite brûlée vive par son conjoint, il y a eu une prise de conscience dans ce pays, et donc ils ont décidé de faire un plan de consacrer 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences conjugales, et effectivement les résultats ont été assez probant. Alors, je voulais savoir où en est la situation aussi globalement en France, et quelles sont, selon vous, les mesures qu'il faudrait mettre en œuvre immédiatement pour au moins minorer cette violence qui perdure.
Alors, en France, le budget n'est pas d'1 milliard. Hein. Le gouvernement peut annoncer des chiffres de comme 350 millions. Alors, encore une fois de plus, il faut agir sur plein de pans différents de la société. Effectivement, on va, nous, en tout cas, auprès des futurs professionnels de l'action sociale, qui seront en tout cas en première ligne pour pouvoir accompagner éventuellement ces victimes. On a parlé tout à l'heure des proches aidants, donc là on est plus sur une sensibilisation grand public. Ouais. Mais quid de l'éducation? Je pense que c'est là où les choses sont très très importantes. Ouais. Alors nous on commence timidement, mais on commence à intervenir auprès des collèges, auprès des lycées, et puis on réfléchit à comment on peut aussi, avec nos collègues du planning familial, qui sont quand même beaucoup plus spécialisés que nous, mais on doit en tout cas pouvoir verbaliser la place du stéréotype au sein de nos sociétés. Et la première chose, en tout cas les premiers éléments où on vit ensemble, c'est dans les cours de récréation. Voilà, dans les cours de récréation. Et donc ça, c'est un axe majeur. Après, l'Espagne, pour faire référence à l'Espagne, ils ont mis en place des juridictions spécialisées au sein des tribunaux.
C'est ça,
Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai pas un avis tranché sur la question. En tout cas, il est clair que ça permet de pouvoir sensibiliser, parce qu'on est en lien aussi avec le parquet. Hein,
c'est
avec le parquet d'Angers. Et en lien avec les forces de l'ordre, qui sont aussi des partenaires primordiaux.
Voilà, c'est ça.
Quand même dans l'accompagnement, la solidarité.
Qu'ils soient formés aussi.
Oui.
Bien sûr, il faut qu'ils soient formés. Ils le sont de plus en plus. Vraiment. Donc voilà, après, c'est assez simplement, c'est comment on arrive à être ensemble autour d'une table, parce que le réseau partenarial est très très important. Donc voilà, c'est comment on peut, parce que la réponse, elle est pluridisciplinaire, mais institutionnellement aussi. Voilà. Donc il y a aussi vraiment cette nécessité, et je sais que le parquet, en tout cas, est un acteur majeur en nom du procureur de la République, est un acteur majeur pour rassembler les partenaires et réfléchir à une réponse plurielle. Quoi.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc vous avez, pardon, des salariés, mais il y a également des bénévoles.
Oui, il y a également des bénévoles.
Oui, il y a également des bénévoles et on est à la recherche de bénévoles, évidemment.
Alors c'est le moment de lancer un appel.
Oui.
Tout à fait. Et il y a les bénévoles, et il y a l'État, il y a la justice, la société civile, les collectivités territoriales. Et c'est tous ensemble qu'on pourra endiguer.
D'accord. Les bénévoles, alors de façon très concrète, ce seraient des gens pour venir vous soutenir. Je pense à la tenue de la ligne téléphonique. C'est fait par des gens formés.
D'accord. Pour les actions de bénévolat, il y a d'autres actions de bénévolat, notamment la garde d'enfants qui peut être un élément qui est sollicité, l'animation de certaines activités. Il y a des actions qui sont proposées pour les bénévoles. On les invite à venir au siège de l'association pour qu'on puisse leur présenter plus en détail toutes les actions qui vont pouvoir s'offrir. Mmh.
Et est-ce que les hébergements localement sont en nombre suffisant pour protéger les femmes en cas d'agression ?
Ils ne sont jamais suffisants. Ils sont jamais suffisants. Après, en tout cas, l'État a quand même mis en place, voilà, depuis un an, on a pratiquement doublé notre contingent de places. Donc, il y a du mieux, hein, c'est sûr qu'il faut le noter, il faut le dire. Il faut rester positif parce qu'on a souvent tendance à pouvoir pointer ce qui ne va pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien. Après, tout à l'heure, la question que vous posiez sur le nombre de femmes qui sollicitent, voilà, on a un accroissement du nombre de sollicitations. J'ai envie de dire que les femmes maintenant portent leur parole. C'est-à-dire que, voilà, je pense que les mouvements féministes, alors depuis plus de 40 ans, mais je pense à MeToo récemment, qui a quand même permis encore de pouvoir faire accélérer en tout cas la prise de parole des femmes. Donc il y a encore besoin de place parce que de nombreuses femmes nous sollicitent et pour lesquelles on n'a pas de place. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un dispositif de mise à l'abri qui permet avec les services du 115 de pouvoir aussi mettre à l'abri si la situation le nécessite.
Ah bon,
donc il y a quand même des réponses probantes sur le territoire et c'est un territoire qui a vocation à respecter la loi surtout, c'est-à-dire que toute personne en détresse a le droit à un accompagnement et à un hébergement en urgence. Voilà. Mm-hmm.
Ah oui, merci. D'accord.
D'accord. Où est-ce que on peut vous contacter, aussi bien pour les bénévoles que pour les personnes qui sont concernées? Comment il est possible de vous contacter?
Donc vous pouvez passer par le siège de l'association, donc nous joindre au 02 41 87 97 22. Et donc il y a une ligne d'écoute qui s'offrira à vous tous les après-midi. Si vous êtes une femme victime de violence et que vous avez besoin d'une écoute, c'est une porte d'entrée. Il y a également le numéro national, le 3919, la ligne d'écoute nationale.
3919, c'est important.
C'est un incontournable, tout à fait.
Ce mot.
Retenez bien le 3919. Mm-hmm. Et donc voilà, avec notre relais sur le département, 02 41 87 97 22.
Merci beaucoup.
Merci.
Grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. On se retrouve après une pause musicale.
Je suis brune ou blonde, tout le monde m'aime. Dans la rue, dans la vie, je me promène. En jouant au cow-boy, ou plutôt à l'indienne. Je suis noire, blanche, je suis de la couleur de l'espoir est blanche et noire est dans mon cœur. Je suis Floyd, Blake, flamme qui veille les morts pour que toutes les couleurs brillent encore. Dans notre ADN, il a son gène, fout la guerre. Encore.
Vous êtes toujours sur Radio G101.5 FM dans l'émission Droit Devant. Vous venez d'écouter la nouvelle chanson de Zazie intitulée Couleur. C'est sympa, non ?
Oui, très sympa. Super,
et c'est maintenant l'heure des actualités des droits humains.
Enfin, une bonne nouvelle pour la planète. Grâce au protocole de Montréal signé en 1987, la couche d'ozone devrait entièrement se reconstituer dans les 4 décennies à venir. De plus, l'élimination progressive des substances chimiques qui la détruisent contribue à limiter le dérèglement climatique. Même si des points de vigilance demeurent, c'est un succès majeur pour la communauté internationale.
Interdire l'accès des universités aux femmes afghanes est anti-islamique. En effet, en excluant les femmes des lieux de savoir, les talibans vont à l'encontre de l'esprit de l'islam et de ce que promeut le Coran. Et ils plongent l'Afghanistan dans une ère d'ignorance. Dans les années 90, 40% des médecins d'Afghanistan étaient des femmes. Elles représentaient 70% des professeurs des écoles, 60% des professeurs d'université et près de la moitié des étudiants. Elles ne sont plus que 14% à savoir lire. Les talibans reprennent la politique criminelle de leur première prise de pouvoir entre 1996 et 2001.
Après Total Energy et son méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie, eh bien c'est Danone qui va devoir rendre des comptes devant la justice. Ce géant français de l'agroalimentaire a été assigné le lundi 9 janvier devant le tribunal judiciaire de Paris pour non-respect du devoir de vigilance en matière de plastique. Les ONG demandent à Danone de publier un nouveau plan intégrant une trajectoire de déplastification, c'est-à-dire de sortie du plastique, sur le modèle des plans de décarbonation de l'industrie. À défaut, elle réclame que le groupe soit condamné à une astreinte de 100 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de 6 mois. Les associations sollicitent également la justice pour que la société Danone fasse cesser le préjudice écologique qu'elles estiment lié à ses activités.
À Lesbos, 24 humanitaires étaient poursuivis depuis plus de 4 ans pour espionnage, trafic de migrants et blanchiment d'argent. La juge du tribunal a annulé vendredi la première procédure à l'encontre notamment de Sean Binder, un ressortissant germano-irlandais, et Sarah Mardini, une réfugiée syrienne. Accusés dans des rapports de police d'avoir facilité à plusieurs reprises le passage de migrants vers la Grèce, ils n'étaient même pas présents à Lesbos au moment des faits. Mais une procédure distincte visant ces humanitaires pour les 2 autres chefs d'inculpation est toujours en cours d'instruction. Selon le Parlement européen, c'est la plus grande affaire de criminalisation de la solidarité en Europe.
Le Pérou traverse une crise politique de longue date qui s'est intensifiée au début du mois de décembre par des actions de protestation contre la nouvelle présidente. Une flambée de violence a gagné le pays. Au moins 40 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations, dont des mineurs. Ces manifestations font suite à la destitution de l'ancien président Pedro Castillo, qui avait ordonné la dissolution du Parlement le 7 décembre. Le tribunal constitutionnel et le Congrès ayant rejeté cette décision, Pedro Castillo avait été arrêté le jour même et la vice-présidente lui avait succédé conformément à la Constitution.
Revenons en France. Lucas, 13 ans, était en 4e au sein d'un collège tranquille dans les Vosges. Le 7 janvier, il a été découvert mort dans sa chambre. Dans son journal intime, il avait laissé un mot expliquant qu'il voulait mettre fin à ses jours. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Épinal pour des chefs d'accusation de harcèlement sur mineurs de 15 ans et harcèlement scolaire. Car très vite, certains proches du défunt ont fait le lien avec la situation qu'il subissait au collège. Les premières personnes interrogées ont fait état de moqueries et d'insultes à caractère homophobe de la part de plusieurs élèves. En effet, le jeune garçon ne cachait pas son homosexualité. L'homophobie tue toujours en France.
En Israël, le retour de Netanyahou au pouvoir. C'est aussi la reprise des manifestations hebdomadaires après Shabbat le samedi soir. La mobilisation renaît encore plus massive depuis que le nouveau gouvernement d'extrême droite a prêté serment. Un décompte officieux dénombrait quelque 80 000 manifestants samedi dernier. La plupart concentrent leur grief contre la réforme de la justice présentée par le garde des Sceaux. La nouvelle coalition prévoit notamment d'affaiblir le pouvoir de supervision de la Cour suprême et de politiser les nominations des juges et des conseillers légaux.
Allons maintenant en Allemagne, à Lützerath, où, selon les organisateurs, le rassemblement contre l'extension d'une immense mine de lignite à ciel ouvert a rassemblé quelque 35 000 personnes. Dont la militante suédoise Greta Thunberg. Des incidents y ont opposé samedi dernier des policiers et des manifestants de la cause climatique. Ils appellent à ne pas sacrifier le climat à la croissance à court terme et à l'avidité des entreprises. L'opération d'évacuation de l'Uzerat est politiquement délicate pour la coalition du social-démocrate d'Olaf Scholz, qui gouverne avec les écologistes. Accusé de trahison, le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne, qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe.
Fin décembre, au Burkina Faso, au moins 86 personnes ont été tuées à Nouma. Ces assassinats ciblaient principalement les membres de l'ethnie Peul, une population traditionnellement pastorale, musulmane et disséminée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon les survivants, ce sont des membres locaux d'une confrérie de chasseurs d'oiseaux agissant comme une milice auxiliaire qui sont allés de maison en maison, ouvrant le feu sur des personnes incapables de s'échapper. Ces homicides faisaient suite à une attaque menée contre une base d'oiseaux et un poste de gendarmerie par des combattants islamistes quelques heures auparavant.
On pourrait croire à une plaisanterie, il n'en est rien. La 28e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, la COP28, qui se tiendra fin novembre à Dubaï, sera présidée par Sultan Al-Jaber, le ministre de l'Industrie émirati et PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale. Une nomination qui suscite l'incrédulité, le scepticisme ou la colère de nombreux experts du climat. D'un côté, le pays est le premier de la région à s'être engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, mais de l'autre, les Émirats Arabes Unis reste le sixième émetteur de CO2 ramené à la population avec 22 tonnes par habitant.
Et il est 19h27 pile et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Saluons d'abord la générosité de Monsieur Hervé Guérinel, le patron du Wallabies, un pub angevin, partenaire de notre campagne Qatar, qui nous a fait un don exceptionnel de 1000 euros. Merci,
merci
Hervé.
Merci Monsieur Guérinel.
Le mercredi 25 janvier à 18h30, une conférence sur les transitions écologiques et sociales est organisée par Démosphère à l'Institut Municipal. Au même endroit, le 26 janvier à 18h30, ce sera Société juste comme système équitable selon la théorie de la justice du philosophe américain John Rawls. Et le 2 février, combattre les inégalités scolaires par la discrimination positive.
Un beau programme. Le samedi 21 janvier, c'est le deuxième anniversaire du TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Le mouvement de la paix nous donne rendez-vous de 15h à 17h à Angers. Place Saint-Aubin, en fait c'est la petite place près du boulevard Foch. Au programme rencontre avec les associations Champ et Partage de Pain.
Le samedi 4 février au centre Jacques Tati de Belbeil, l'association Asile et Partage nous invite à un grand spectacle musical, L'amour dans tous ses états, qui commencera à 19h. Avec entr'actes, buffet, buvette, etc. Et à 20h, pour celles et ceux qui souhaiteraient se restaurer avec un plat africain, préparé et servi par des jeunes vivant à la vendange, le prix est libre. Pensez à réserver votre repas avant le lundi 30 janvier.
À voir le film Les Survivants de Guillaume Rénusson avec Denis Ménochet et Zahar Amir Ebrahim. Alors elle est afghane et elle veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel qui ne veut pas d'ennui, mais devant sa détresse, il va décider de l'aider. Mais il est loin de se douter qu'au-delà de l'hostilité de la nature, c'est celle de trois identitaires qu'ils devront affronter.
À lire la BD Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny-Lecalais de la CAT, qui à 19 ans entame une correspondance avec Reynaldo McGurth, un condamné à mort américain. Au fil de leurs échanges naît un projet de récit graphique d'une intense émotion.
À l'appel de la LDH et de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, un rassemblement est organisé le vendredi 20 janvier à 18h, place du ralliement, en soutien aux femmes et au peuple iranien pour sa lutte pour sa liberté.
Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Aimé et Simon pour leur venue. Et
non, merci.
Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G et excellente année militante.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.